On va prendre des exemples concrets où apparaît que le Seigneur, après avoir vu et entendu les choses, eh bien, a parlé de manière peut-être, enfin c'est sûr, différente de nous, et c'est notre exemple. C'est comme cela qu'il nous faut caler les choses dans notre vie et avoir comme référence les bonnes réactions. Alors, ça pourrait être intitulé Œil, oreille et langue, exemple parlant de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, Où es-tu? Il répondit, J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, Pourquoi tu fais cela? La femme répondit, Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, Pourquoi tu as fait cela? Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. De ce récit, on peut faire ressortir les points suivants. C'est que Dieu appelle Adam et Ève comme s'ils n'avaient pas vu et entendu ce qui s'était passé. Forcément, il a vu et entendu ce qui s'était passé, puisque Dieu voit tout, Dieu sait tout. Rien ne lui a échappé de ce malheureux épisode de la désobéissance et de l'entrée du péché dans le monde. Cependant, il ne préjuge pas. Et c'est cela qui, pour nous, doit nous parler. Quand bien même nous aurions la capacité de tout voir et de tout entendre, on ne peut même pas y penser parce que, avec nos capacités actuelles, on serait incapable de gérer les choses. Vous êtes devant quelqu'un, vous savez pertinemment ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Comment vous allez lui parler comme si vous ne saviez pas? Ça fausse tout, ça. Voilà. Dieu a cette capacité, mais il l'utilise dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il n'est pas hypocrite, il ne fait pas semblant, mais il ne préjuge pas. Autrement dit, il laisse le temps et il laisse la possibilité à Adam et Ève de s'expliquer. Ça, c'est important pour nous à retenir. Quand nous avons vu quelque chose, quand nous avons entendu quelque chose, parfois, notre jugement est arrêté. La personne a beau essayer de s'expliquer, c'est comme ça, on n'en démordra pas. Et Dieu, au contraire, à la différence de nous plutôt, ne préjuge pas. Et il laisse le temps de s'expliquer. Il laisse la possibilité à Adam et Ève de s'expliquer. Et dans nos relations, dans tous les domaines même, je pense que ces points-là sont des points importants. Quand on ne sait pas, eh bien on laisse le temps aux gens et la possibilité aux gens de dire les choses, et on essaie de comprendre, on essaie de se faire une idée. Eh bien, on devrait faire pareil quand on sait, parce que de toute façon, on ne sait pas tout. On ne sait que les choses de manière partielle, surtout si on nous les a rapportées. Là, c'est pire que tout, parce que vous avez peut-être fait ces jeux, vous dites quelque chose à quelqu'un, je ne sais plus comment ça s'appelle ce jeu, qui le répète à un autre, qui le répète à un autre, et le dernier, le téléphone arabe, c'est aussi simple que ça, d'accord. Et le dernier, quand il dit ce qu'il a entendu, vous vous demandez si le premier a bien entendu ce que vous lui avez dit. Parce qu'il y a eu des modifications au passage. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est le résultat du fait d'être imparfait, d'être partiel aussi dans notre façon de voir et d'entendre les choses et de les comprendre. Eh bien, à la différence de nous, Dieu ne préjuge pas. Et il laisse la possibilité de s'expliquer. Mais surtout, et là c'est plus qu'une différence, c'est abyssal, dans son cœur, parce que ce qu'il a vu est grave, parce que ce qu'il a entendu est grave, dans son cœur, le plan de salut se met en place. Et dès que Dieu s'adresse à Adam et Ève, et que Adam et Ève répondent, ils s'adressent au serpent Et dans la réponse qu'il donne, le plan de salut apparaît. La postérité de la femme t'écrasera la tête. C'est le plan de salut qui apparaît. Et on peut le comparer avec Ésaïe 6:8. Qui enverrai-je? Me voici, envoie-moi. Et il est certain que cet épisode, cette discussion entre le Père et le Fils a eu lieu là. Sans quoi, comment Dieu le Père aurait-il pu dire, sans avoir la réponse du Fils, la postérité de la femme t'écrasera la tête. C'était là aussi annoncer quelque chose avant d'avoir l'accord de la personne concernée. Or, on sait que le Père et le Fils ne font rien l'un sans l'autre. Donc, du coup, pour nous, on prend du recul, il interroge Adam et Ève comme s'il n'avait pas vu et entendu. Mais il a vu et entendu. La preuve, c'est que le plan de salut est déjà mis en place. Et là, pour nous, nous avons des leçons extraordinaires à prendre. C'est que devant une situation déplorable, qu'est-ce qui anime notre cœur et qui va faire parler notre bouche? Les reproches, les condamnations, les jugements? Ou le plan du salut pour que la situation change, pour que la personne s'en sorte? C'est vrai qu'il y aura des reproches, c'est vrai qu'il y aura du jugement, mais ça ne fait changer personne. Et ça n'amène personne à sortir de la situation dans laquelle elle est. Et quand elle ne peut pas s'en sortir elle-même, alors il faut que ce soit nous-mêmes qui payons le prix du salut. Et c'est ce qu'il s'est passé là dans le livre de la Genèse. Exemple parfait de Dieu qui voit, de Dieu qui entend. Mais quand il parle, il ne préjuge pas. Et il a déjà prévu, malgré le prix à payer, le moyen d'apporter le salut à cet homme, à cette femme, et à toute leur descendance, et à toute l'humanité qui suivra. Alors, on tourne les pages. On va au chapitre 18. On change de cas. On change de cadre, on change de personnage. Dieu est toujours le même. Chapitre 18, verset 20. Dieu dit ceci. Et l'Éternel dit, le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. Dieu voit, Dieu entend ce qui se passe à Sodome et à Gomorrhe. Le péché est énorme. Mais avant de prendre la décision de condamner, il dit ceci au verset 17, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? C'est surprenant. Hein, juste une petite parenthèse, Marcelin, vous pourriez mettre la soufflerie un peu plus fort, parce que finalement il fait chaud. Si tout le monde est d'accord. Hein. Bon, presque. Merci. Voilà. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Ça veut dire que le Dieu Tout-Puissant, qui n'a de compte à rendre à personne, finalement, ne fait rien sans en parler d'abord à Abraham. Ça, c'est surprenant. Nous, on n'a de compte à rendre à personne. Et d'ailleurs, on le dit, je n'ai de compte à rendre à personne. Je n'ai besoin de personne. Je n'ai d'explication à donner à personne. C'est moi, 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 tout seul, au cas où on n'ait pas bien compris. Eh bien là, nous commettons des erreurs, parce que le Seigneur ne fonctionne pas comme cela. Il n'agit pas de cette manière-là. Ce qu'il voit et ce qu'il entend ne prédomine pas. L'Éternel s'en alla lorsqu'il lui a achevé de parler à Abraham. Et ce qu'il voit et ce qu'il entend de Sodome et Gomorrhe ne prédomine pas. Et ne l'amène pas à prendre les décisions sans demander l'avis de Abraham, à quiconque. Complètement différent. C'est un Dieu de partage. C'est un Dieu d'échange. Et pour nous, c'est pareil, devant des situations difficiles et douloureuses, parfois, nous aurions tendance à trancher de par nous-mêmes, la haute autorité que nous sommes. Je ne sais pas combien vous mesurez, mais la haute autorité, elle est limitée dans sa dimension quand même. Voilà. Mais souvent, on se prend pour ce que l'on n'est pas. J'allais dire, on se prend pour Dieu. Mais c'est même une offense à faire à Dieu que de dire les choses de cette manière-là, puisque lui, rendez compte, lui donne des explications. Lui ne cache pas ce qu'il va faire devant le péché de Sodome et de Gomorrhe. Et lui prend le temps de parler avec Abraham avant de mettre en application la décision qui consiste à condamner le péché. Et nous, devant le péché, est-ce que nous donnons le temps? Est-ce que nous nous donnons le temps du partage, de la réflexion? Le péché est condamnable, que vous le condamniez tout de suite ou dans 5 minutes, de toute façon, on le condamne. On est d'accord là-dessus, on ne discute pas là-dessus. Mais là où il y a une différence entre Dieu et nous, c'est que nous, on est prompt à trancher. On est prompt à frapper. Et Dieu prend le temps de dire, prend le temps de partager, prend le temps d'échanger avec Abraham, et s'il n'y a que 5 justes, je ne détruirai pas. Parce que sa volonté, c'est de pardonner. On va dans le livre de l'Exode, et là aussi c'est quelque chose de particulier, dans le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 7. Exode 3, 7. « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Et il les dit, « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent, etc. etc. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » C'est magnifique. Mais Seigneur, est-ce que tu sais très bien qu'ils vont murmurer à tel point que cette génération sortira d'Égypte mais ne rentrera jamais dans Canaan. C'est parfois difficile de gérer ce que l'on sait d'avance. On sait d'avance que tout ce qu'on va faire pour cette personne ne va pas l'amener là où il faut. Alors on l'abandonne ou pas? Eh bien Dieu non. Dieu non. Il fait tout pour délivrer le peuple d'Égypte. Et pourtant il sait qu'il va essuyer des murmures et pas que quelques-uns. Il sait qu'il va essuyer de l'incrédulité, qu'il va être l'objet d'accusations. Il sait très bien que lorsqu'il s'entretiendra avec Moïse sur la montagne, il le sait, le peuple va fabriquer le veau d'or. Mais pour le moment, Dieu agit comme s'il ne savait pas. Et ça, c'est le propre du Père, c'est le propre de la Mère, qui agit sans juger de l'avenir. Et dire, ben, de toute façon, il n'y arrivera jamais, donc ça ne sert à rien, c'est perdu. Non, ce n'est pas perdu. Parce que sa miséricorde et sa compassion sont entières. Et nous devons avoir une miséricorde et une compassion entières. Ce n'est pas ce que l'on voit, ce n'est pas ce que l'on entend, ce n'est pas ce que l'on sait qui doit prendre les décisions dans notre cœur. C'est ce qui vient de Dieu. Tu feras sortir mon peuple d'Égypte, malgré ce que je vois d'avance, malgré ce que je sais d'avance. Malgré ce que j'entends d'avance, aujourd'hui j'entends qu'ils souffrent, aujourd'hui je vois qu'ils souffrent, j'entends leurs cris. Alors on intervient aujourd'hui. Voilà. Et ça c'est quelque chose d'important que nous avons à considérer. Parce que sinon on ne fait jamais rien. Puisqu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, ça ne sert à rien. C'est peine perdue pour tout le monde. Non, ce n'est pas peine perdue pour tout le monde. Il faut faire œuvre de miséricorde et de compassion. On va prendre l'exemple de David. 2 Samuel 12. 2 Samuel, chapitre 12. L'Éternel envoya Nathan vers David. Si nous savons ce malheureux, déplorable épisode, c'est parce que Dieu a permis que ce soit rapporté dans sa parole. Ça veut dire que lui l'a vu, lui l'a entendu, tout ce qui s'est passé, puisqu'on a quand même des détails particuliers. Mais quand il envoie Nathan vers David, il indique à Nathan de parler de telle manière à produire la repentance. Le jugement et la condamnation viendront après. Et là, pour nous, c'est quelque chose d'important dans notre cœur. On a vu, on a entendu quelque chose qui est horrible. Ce qu'il a fomenté pour le meurtre d'Uri le Héthien, c'est horrible. Mais le jugement et la condamnation ne précèdent pas la parole de repentance. Et nous, devant le péché, que nous avons vu, devant les choses que nous avons entendues qui sont condamnables sans appel. On est d'accord. Il n'y a pas un avocat pour défendre la cause. Parce qu'il n'y a aucun moyen d'expliquer et de trouver des excuses. Néanmoins, dans ce récit que Nathan va rapporter, c'est Dieu qui parle pour produire la repentance chez cet homme. De toute façon, il y aura jugement et condamnation. Mais Dieu donne la chance, la possibilité plutôt, de la repentance. S'il y a repentance, il y aura réhabilitation. Il y aura restauration. S'il n'y a pas repentance, de toute façon, il y aura jugement et condamnation dans tous les cas. Mais Dieu parle d'abord pour produire la repentance. Et nous, devant le péché, que nous avons vu et que nous avons entendu, est-ce que notre parole première a pour motivation de produire la repentance? Pas toujours. Hein. Si on n'y veille pas, on va direct à la condamnation et au jugement. Puis, de toute façon, la cause n'est même pas défendable, donc on peut aller direct à la condamnation et au jugement. Oui, on peut. Mais Dieu ne le fait pas. Et il est mon exemple. Il est ma référence. Il ne fait pas semblant, il ne fait pas comme si, puisqu'à la fin du récit que Nathan développe jusqu'à son terme envers David, c'est très clair. C'est dit posément, parce que je ne pense pas qu'un récit pareil puisse être dit avec dureté, en hurlant. C'est dit posément, mais c'est dit. Et ça va tomber. Et David a compris. La seule différence, avec la même situation, vous ne dites que la fin, c'est qu'il y a eu la possibilité de la repentance. C'est la seule différence. La situation, elle est ce qu'elle est. On ne peut pas revenir en arrière. Uri est mort. Le jugement et la condamnation sont arrêtés, ça va tomber. Est-ce qu'on donne la possibilité de la repentance ou pas? Ça, c'est nous qui décidons. En fonction de notre cœur. Pas en fonction de ce qu'on voit et ce qu'on entend. Parce que ce que l'on voit et ce qu'on entend nous amène à condamner immédiatement. Et c'est la différence entre Dieu et nous. Il faut avoir de la force, hein, de la maîtrise de soi, pour se contenir devant une abomination pareille et donner encore la possibilité de la repentance. On continue, on va dans l'évangile de Luc. On va prendre des exemples du Nouveau Testament. Au chapitre 5, parmi les premiers miracles, chapitre 5, verset 3. Il monta dans l'une de ses barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. De la barque, il enseignait la foule. Alors on essaie, enfin moi j'essaie de me l'imaginer, dans la barque, il enseigne la foule. Ça veut dire que dans le meilleur des cas, Pierre et les autres sont autour de lui. La foule est là-bas de toute façon. Et il est possible que Jésus soit à la... Merci. À la proue et que tout le monde soit derrière. Je l'ai vu comme ça parce que je me suis dit, il voit les choses sans qu'on les lui montre. Ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien pris. Il l'a vu. C'est pas la peine de lui montrer les choses. Il l'a vu. Il a l'œil attentif. Et nous devons avoir l'œil attentif aux situations des personnes que nous rencontrons pour connaître leurs besoins. Sont-elles dans le besoin? Peut-être pas toujours financier. Il y a peut-être d'autres situations. Il entend sans qu'on lui parle. Jésus parle à la foule, mais en parlant à la foule, il leur parle à eux. Moi, j'ai noté, il a les yeux à la tête et même il a les yeux derrière la tête. S'ils sont derrière, c'est eux qu'il voit. C'est eux à qui il s'adresse parce qu'il entend leur situation. Finalement, notre cœur dépend de nos bons yeux et de nos bonnes oreilles. Qu'est-ce que nous allons dire à cette personne ou à ces personnes qui sont autour de nous, qui sont devant nous, de la part du Seigneur, si nous n'avons pas bien vu leur situation? Si nous n'avons pas bien entendu ce qu'il faut entendre. Parce que même au-delà des mots, qu'ils ont exprimé. Peut-être que si je m'arrête aux mots, je ne vais pas entendre ce qu'il faut entendre. Il faut que j'aille au-delà des mots qui sont dits, voire du non-dit pour le coup, parce que certaines personnes, quand elles sont en difficulté, elles le versent dans le mutisme. Elles ne disent rien, parce qu'elles sont en difficulté, elles sont en douleur, etc. C'est à nous d'avoir les bonnes oreilles. C'est à nous d'avoir les bons yeux et de voir la situation. Et le cœur aussi dépend du service. Et le Seigneur parle en fonction de ce qu'il voit dans l'œuvre de Dieu. Cet homme, Pierre et Jacques, sont des serviteurs potentiels. Et il va leur parler en fonction de ce qu'ils voient. Eux sont conscients de rien du tout. Ils viennent de passer la nuit à travailler. Ils sont fatigués. Ils n'ont rien pris. Ils ont du souci au niveau économique. Alors c'est pas le moment de penser à l'œuvre de Dieu, au service de Dieu. Ils rendent service au Seigneur qui a besoin d'une barque. Et je pense que ça s'arrête là. Mais le Seigneur a vu, il a entendu. Et surtout, il intervient et il parle en fonction aussi de ce qu'il a vu dans l'œuvre de Dieu. Voilà. Et toujours le Seigneur bénira, au-delà de ce qu'on peut demander, penser, imaginer, parce que une part de la bénédiction qu'il nous donne est pour son œuvre. Et Dieu va les bénir pour que Pierre et Jacques et Jean puissent le suivre sans être en difficulté économique. Parce que pendant 3 années, ils ne vont pas aller tous les jours à la pêche, hein. Et pourtant, tout le monde a vécu. Ça veut dire que le Seigneur prend soin des choses, il voit, il entend, et il prend soin de ceux qui s'engagent à le servir. On n'a pas à se faire du souci dans l'œuvre de Dieu quand on décide de le servir. Chapitre 5 toujours, mais le verset 20 change de situation. Des amis amènent un paralytique, voyant leur foi. Alors on remet tout dans le contexte. Il y a du monde, des pharisiens, des docteurs de la loi qui sont là. Quatre amis amènent un paralytique. Jésus voit leur foi, mais quand il parle, c'est comme s'il n'avait pas vu la même chose que les autres. Homme, tes péchés te sont pardonnés. C'est la suite immédiate de voyant leur foi. Un paralysé qui arrive, amené par des amis, voyant leur foi, homme, tes péchés te sont pardonnés. Eux l'amènent pour être guéris. Il voit la foi, mais il répond autre chose. Ça veut dire qu'il n'a pas vu comme les autres. Il n'a pas le même regard que les autres. Il y a un décalage entre la vue spirituelle et la vue physique. Et nous, nous avons une habitude, c'est la vue physique. Il faut maintenant qu'on intègre le décalage et que nous portions un regard spirituel sur les situations et sur les choses. Ils voient leur foi et ils parlent du pardon des péchés à cet homme avant de lui parler de toute autre chose. Le décalage entre le regard que le Seigneur a et le nôtre, qui va générer une parole décalée. Homme, tes péchés te sont pardonnés. Tout le monde va réagir en disant, mais qui est celui qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et là, une conversation va s'engager. Mais sa parole ne dépend pas de ce qu'il a vu physiquement, ni de ce qu'il a entendu physiquement. Sa parole dépend de ce qu'il a vu spirituellement et de ce qu'il a entendu spirituellement. Et il a entendu la souffrance de l'âme de cet homme qui est en perdition. Il l'a vu et il l'a entendu. Et c'est ce qui va l'animer dans sa parole. Et pour nous, c'est pareil. Soit nous sommes au diapason des hommes, et on fait comme tout le monde, on parle en fonction de ce qu'on a vu physiquement parlant et de ce qu'on a entendu physiquement parlant. Soit on est au diapason de Dieu. Parfois, on va parler en fonction de ce qu'on a vu spirituellement et de ce qu'on a entendu spirituellement. Et là, on va se retrouver en décalage avec l'appréciation des hommes. Mais l'important, c'est d'être au diapason de Dieu. On va au chapitre 22. Là aussi, c'est un exemple qui bouscule, hein. Chapitre 22, verset 19. On peut lire à partir du verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table, les apôtres avec lui, il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Verset 19. Ensuite, il prit du pain Et après avoir rendu grâce, il le rompit, le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper, la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Et ça ne l'a pas empêché de dire, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Pourtant, il a bien vu que Judas était là. Et il sait très bien ce qu'il y a dans le cœur de Judas. Verset 3, hein. Satan entra dans Judas, qui était du nombre des 12, et il est allé s'entendre sur la manière de le livrer. Il l'a vu, il le sait très bien. Seulement, il n'hypothèque pas le moment. Ce n'est pas le moment de condamner Judas, c'est le moment d'établir la nouvelle alliance. Il ne condamne pas les autres au même titre que Judas. Ça ne veut pas dire que les autres sont parfaits, parce que quand vous lisez la suite, verset 24, « Il s'éleva parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. » Alors, si le Seigneur ne prend pas du recul par rapport à ce qu'il voit chez l'un et ce qu'il sait qu'il a entendu, quand il est allé s'entendre avec les principaux sacrificateurs, et ce qu'il voit et ce qu'il sait chez les autres, parce qu'il entend ce qui boue dans la marmite, lequel, contestation, donc ça veut dire qu'il y avait une petite explication au passage, lequel devait être estimé le plus grand. Comment vous voulez établir la Sainte Cène pour l'avenir de l'Église et de l'humanité si vous ne prenez pas du recul par rapport aux situations du moment, de l'instant présent? Si jamais le Seigneur ne prend pas de recul entre nous, hein, la Sainte Cène, pas ce soir-là, hein. Mais on ne peut pas hypothéquer l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a des hommes, j'allais dire des femmes, en l'occurrence, il n'y en avait pas. Mais on ne peut pas hypothéquer l'œuvre de Dieu parce qu'il y a des hommes qui sont encore complètement décalés par rapport au moment. C'est le moment d'établir la Sainte Cène. Demain, il est crucifié. Et eux sont décalés. Alors, ça aurait été tellement bien qu'il ne soit pas décalé. Qu'il fasse bloc avec lui. Qu'il le soutienne, mais ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On hypothèque tout? On remet tout en question, on décale tout, parce qu'ils ne sont pas prêts. Et quand est-ce qu'ils seront prêts finalement? Ça, on ne le sait pas. Donc le Seigneur n'attend pas que les uns et les autres soient prêts. Il a bien vu, il a bien entendu, mais c'est le moment d'établir la Sainte Cène. C'est le moment d'établir la nouvelle alliance. On établit la nouvelle alliance. Voilà. Il ne se laisse pas désorienter par ce qu'il va voir, par ce qu'il va entendre, par ce qu'il va vivre. Il ne se laisse pas désorienter. Pour nous, c'est un enseignement. Hein. Parfois, ce que l'on voit, ce qu'on entend, ça nous fait baisser les bras, quoi. Ça nous désoriente. Non, bon, on arrête tout, il y en a assez. Après tant d'années, ils sont encore là, ils n'ont pas compris. Pire, il a fomenté de me livrer. Et le Seigneur qui sait tout, si on en rajoute un peu, il sait très bien que l'apôtre Pierre va le renier dans quelques heures. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On ne fait rien, on ne fait plus rien. On continue d'avancer. On continue d'avancer. On arrive au verset 61 du même chapitre. Le Seigneur s'étant retourné, c'est la fin de l'épisode de la trahison de Pierre, regarda Pierre. Il a vu, il a entendu ce qui s'est passé là. Une fois, deux fois, trois fois. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Ce n'est pas un regard de jugement, c'est un regard pour aller le sauver dans sa dégringolade, parce qu'il est en train de chuter, Pierre. Il faut aller le chercher. Qui est le plus à même d'aller chercher celui qui a fauté, si ce n'est celui qui subit la faute? Quand c'est celui que vous avez offensé qui vient vous aider, c'est d'une efficacité redoutable cette affaire-là. Non, non, mais j'ai honte. Non, mais je t'aide quand même. Si vous voulez régler des situations, parfois c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut payer le prix d'ailleurs. Hein. Quand vous le faites, la personne, elle a pris une leçon. Celui qui pouvait me condamner, me juger, me laisser tomber, mais il ne le fait pas. Quelle leçon! Quelle leçon! Le Seigneur ne se laisse pas piéger par ce qu'il voit, par ce qu'il entend, et il va le baptiser du Saint-Esprit. Qui peut être baptisé du Saint-Esprit? Heureusement que le Seigneur ne nous pose pas la question, on sera embarrassé de répondre. Parce que nous, on irait vers ceux qui le méritent, le bon Dieu sans confession. Et parfois, on est surpris de voir que ben, est baptisé du Saint-Esprit. Qui est baptisé du Saint-Esprit? Apporte des dons spirituels. Qui apporte des dons spirituels? Et le Seigneur, malgré ce qu'il a vu ou entendu dans la semaine, laisse le don spirituel s'exprimer. Parce qu'il n'hypothèque pas son œuvre. Il va voir l'erreur et la dégringolade de Pierre, il va aller le chercher. Fin de l'évangile de Jean. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Il va aller le chercher. Et je termine avec Pierre. Ce n'était pas prévu de finir avec lui, mais ça se présente comme ça. Quand il est chez Corneille, acte 10, on ne va pas relire le récit parce qu'on le connaît tous. Ce qu'on va lire, c'est acte 11. Et vous allez voir le petit oubli de Pierre. Acte 11. Et le Seigneur, il a bien vu. Il a bien entendu ce qui s'est passé chez Corneille. Et maintenant que Pierre fait le rapport aux autres apôtres, il manque un élément quand même qui n'est pas passé inaperçu puisque pour nous, c'est mentionné. On va y revenir. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches, en disant « Tu es entré chez des incirconcis, tu as mangé avec eux. » Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit « J'étais dans la ville de Jopé, pendant que je priais, je tombais en extase, j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe, attachée par les quatre coins, descendait du ciel, vint jusqu'à moi. » Les regards fixés sur cette nappe, j'examinais, je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles, les oiseaux du ciel. J'entendis une voix qui me disait, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais je dis, « Non, Seigneur, jamais. Rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à trois fois. Puis, tout fut retiré dans le ciel. Et voici aussitôt trois hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Vois quelqu'un à Jopé, fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Lorsque je me mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement, et je me souvins de cette parole du Seigneur, « Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Le récit est juste. Sauf qu'il manque l'épisode de acte 10, verset 28. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Verset 34, Pierre ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. » Mais ça, il ne le dit pas. Parce que ça, ce n'est pas à son avantage. Je ne veux pas dire que ce qu'il dit, il le dit pour que ce soit à son avantage. C'est comme s'il n'était pas conscient de certaines choses. Il met en avant la réalité spirituelle. Pendant que je parlais, lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Sauf que le début de ce qu'il a dit, c'est quand même désobligeant. C'est quand même, ça affecte. Quand on entend ces choses-là. Le Seigneur l'a vu, il l'a entendu, mais il reste fidèle. Il attend que son serviteur ait fini de dire ce qu'il n'est pas utile de dire, du reste, parce que ça ne va rien changer dans le cœur des gens, voire même, ça peut provoquer la réaction inverse. Ah bon, puisque c'est comme ça, on s'en va. Il entend le récit de Pierre qui fait omission de ses erreurs, mais il continue de faire confiance. Ah, ça, c'est pas évident, hein. C'est pas évident, hein. Vous avez vu une situation, Vous entendez la personne qui fait un rapport, il manque la partie grise, la partie pas très glorieuse. Vous appelez ça comment, vous? Une omission. Une omission. Ce n'est pas du mensonge, c'est une omission. Eh bien, dans l'œuvre de Dieu, lequel d'entre nous n'a jamais péché par omission? N'a jamais dit les choses complètement, comme il fallait, les a dites un petit peu ou beaucoup à son avantage. Eh bien, Dieu entend, Dieu voit, et il fait confiance. Et il continue d'utiliser l'apôtre Pierre pour annoncer sa parole. Il ne retient pas toutes nos erreurs. Et peut-être que le Seigneur finalement a raison. Parce que nous, chaque fois que nous essayons de retenir toutes les erreurs de quelqu'un, au bout d'un moment, il faut vider le panier. Parce qu'il se remplit vite. Et quand il est plein, qu'est-ce que vous voulez rajouter? Il est plein que de mauvaises choses ou de choses qui ne sont pas très très bonnes. Quelle grâce que le Seigneur, au-delà de ce qu'il voit et de ce qu'il entend, parle autrement. Agisse différemment, parfois complètement décalé. Voilà. Et bien pour nous, ce serait bien d'en arriver là. Que nous soyons décalés par rapport aux vues et aux choses entendues humainement parlant. Et que ce décalage soit humain et qu'à l'inverse, nous ne soyons plus décalés avec le langage de Dieu. Que nous ne soyons plus décalés avec la pensée de Dieu, avec les intentions de Dieu. Et ça, ce serait bien mieux. Bien mieux. Donc, je pense qu'on va terminer cette fois sur l'œil, l'oreille, la langue et le cœur. Mais je crois qu'on a très bien compris que l'œil et l'oreille que Dieu nous a donnés ne doivent pas être ce qui alimente notre cœur. Ça doit être un appareil photographique et auditif. Mais ce qui alimente notre cœur doit venir d'ailleurs. Parce que si ça ne vient pas d'ailleurs, on part dans l'erreur. Et on ne va pas faire l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur nous aide.